Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La situation est alarmante. Ces mots sont ceux du préfet des Bouches-du-Rhône cet après-midi. Dans ce département, l'épidémie repart avec force et le préfet imagine déjà des mesures de restriction complémentaires pour limiter la propagation de l'épidémie. À l'image de ce qui se passe dans le sud de la France, 38 départements sont placés en état de vulnérabilité avec 4897 cas de plus en France lors des dernières 24 heures. Partout en Europe, le scénario est le même. Le virus circule de nouveau et certains médecins parlent d'ores et déjà, y compris pour la France, d'une deuxième vague. En France, le gouvernement a reporté l'annonce du plan de relance pour se consacrer à l'urgence sanitaire et tenter de rassurer en cette rentrée plombée, il faut bien le dire, par le Covid. Alors peut-on encore contenir cette reprise de l'épidémie quand les vacanciers sont sur le chemin du retour? Faut-il s'attendre à une hausse des hospitalisations? Comment les élèves, les salariés vont-ils tous passer au masque obligatoire la semaine prochaine? Épidémie, c'est la rentrée. Et ça repart, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Anne-Claude Crémieux, vous êtes professeure des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis à Paris, membre de l'Académie de médecine. Je rappelle votre livre « Gouverner l'imprévisible, pandémie grippale, SRAS, crise sanitaire », publié aux éditions Lavoisier. Avec nous ce soir, Vincent Maréchal, vous êtes professeur de virologie à la Sorbonne Université à Paris et vous êtes chercheur au Centre de recherche Saint-Antoine à Paris également. Bruno Genis, vous êtes rédacteur en chef au service politique de Paris Match. Enfin, Agnès Ricaribon, vous êtes urgentiste, présidente de la Société française de médecins d'urgence. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je voudrais qu'on commence sur la déclaration du préfet des Bouches-du-Rhône. C'était en tout début d'après-midi. Il parle de situation alarmante. Je le dis à l'instant. Alors, on va parler du taux d'incidence. On est maintenant familier hein, de ce taux d'incidence. 110 cas pour 100 000 habitants. En quoi c'est alarmant? À Marseille, c'est 145 cas pour 100 000. Ce sont des chiffres qui montrent une accélération de l'épidémie, notamment dans les Bouches-du-Rhône.
Non, c'est vrai qu'on a depuis maintenant à peu près un mois une accélération de la circulation du virus avec des zones plus ou moins touchées, mais tout de même une accélération qu'on pourrait qualifier d'assez diffuse. Au départ, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous étions dans un scénario dit de cluster où l'objectif, c'était vraiment d'empêcher le virus de sortir du cluster. C'était d'empêcher ce qu'on appelle la circulation communautaire. Aujourd'hui, on voit bien que ce scénario est un peu dépassé, qu'il y a une circulation communautaire et que l'objectif, c'est de tenir cette circulation à des niveaux le plus bas possible grâce aux mesures barrières et grâce à l'isolement des personnes infectées.
Mais quand on voit ces chiffres-là, on tient encore? Comme le dit Anne-Claude Crémieux.
D'abord, il faut dire qu'on trouve beaucoup de cas parce qu'on les cherche et c'est bien. Ça, il y a une politique de test qui a beaucoup évolué depuis le mois de mars dernier. Ce qui, pour l'instant, inquiète peu, mais à mon avis, c'est un point de vigilance, c'est qu'on ne voit pas augmenter le nombre de cas graves de façon très importante. Mais ce qui est à craindre, c'est qu'on soit dans une phase un peu calme parce que les populations touchées sont peu sensibles. En tout cas, n'expriment pas de forme grave.
Et parce qu'on
se retrouve dans quelques semaines avec. Jeune, moi j'aime bien ce terme-là parce qu'en fait, je me suis retrouvé jeune il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est une classe d'âge, en tout cas, dans lequel...
Ça va jusqu'à quel âge, jeune, rassurez-moi.
Là, pour l'instant, dans la classe dont on parle des 15-44 ans dans laquelle l'incidence est importante, mais à 50 ans, on est encore jeune, donc je suis tout à fait serein. Non, ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, les gens qui sont touchés, visiblement, sont des gens qui risquent peu. La question est de savoir si on ne va pas rentrer au bout d'un moment dans des sphères dans lesquelles les gens ont des facteurs de comorbidité ou des facteurs...
Les mots ont leur importance. Quand un préfet parle de situation alarmante, il joue à se faire peur, il essaie de faire passer des consignes, notamment en matière de port du masque, etc. Bruno Jeudy, ou est-ce que là, on est face à une situation... On rappelle quand même que le ministre de la Santé, ce week-end, dans le journal du dimanche, avait eu des mots aussi inquiétants, disant « nous sommes dans une situation à risque ». On a l'impression qu'on est presque déjà dans l'après.
Non, c'est dans la même veine que le ministre de la Santé ce week-end dans le journal du dimanche. Le préfet de police est annonciateur de mesures de durcissement sans doute sur les Bouches-du-Rhône et sur Marseille. Probablement la fermeture d'établissements de nuit, de bars ouverts, sans doute un durcissement aussi sur le port du masque et éventuellement les amendes qui peuvent être infligées à ceux qui ne les porteraient, qui ne le portent pas. Donc non, le préfet, là, à mon avis, il est dans une phase d'avertissement et sans doute de durcissement des mesures du respect des gestes barrières sur le territoire des Bouches-du-Rhône et singulièrement à Marseille, qui, faut-il le rappeler, avait plutôt été épargné dans cette première phase de l'épidémie, mars, avril, c'est plutôt une des régions et même un des coins qui est peu touché, comme l'Occitanie ou la Grande ou la Nouvelle-Aquitaine. Donc, je pense que le préfet ne parle pas en l'air. Il a des données qui lui permettent de pas seulement tirer le signal d'alarme, mais sans doute de passer à une phase de durcissement d'application des mesures barrières.
Encore une fois, est-ce qu'on est dans l'extrême prévention parce qu'on a eu des raisons d'être traumatisé par ce qui s'est passé? On va parler des hôpitaux dans un instant, où chacun se dit attention, il faut éviter évidemment qu'on ait un afflux de malades dans les services de réanimation et dans les hôpitaux, etc. Est-ce que c'est une configuration classique, Antoine Crémieux, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer? Les vacances, on les a vues, ces images, la rentrée, la circulation des populations dans l'ensemble du pays, ou est-ce qu'on est un peu au-delà?
On est en train d'apprendre, parce que rappelez-vous, il y a un mois et demi, on se disait peut-être qu'avec la chaleur, etc., tout ça, on va arriver à ce que le virus disparaisse de lui-même. Au fond, là, il nous dit absolument le contraire, c'est fini. Le scénario de disparition ou même, je dirais, d'accalmie du virus, il est totalement derrière nous. Qu'est-ce qu'on constate? Que, au fond, lorsqu'on lève les mesures barrières, lorsqu'on lève notre vigilance, le virus repart, il en profite. Et par conséquent, tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre de ces mesures pour arriver tout de même à gagner du temps, c'est-à-dire à le tenir dans une circulation qui n'entraîne pas de dégâts sanitaires trop importants. Et ça oblige finalement à des réactions pratiquement, je dirais presque au jour le jour. C'est-à-dire qu'on a des ajustements qui sont en permanence liée au niveau de la circulation et au niveau de l'immunité. Et je dirais, pour une fois, finalement, le langage est clair, c'est ça augmente de façon importante, vous l'avez dit, c'est trois fois plus qu'à Paris, et donc il faut effectivement augmenter le niveau de notre réponse. Et ça marche, il y a une étude qui a montré qu'au fond, lorsqu'on explique bien aux gens le risque, eh bien, à ce moment-là, ils comprennent, les mesures barrières et ils s'adaptent, c'est-à-dire qu'ils portent le masque. Au fond, on adapte son comportement au niveau de risque qui est affiché.
Et localement, vous parliez de la fermeture des établissements comme les bars, les restaurants, après 20h. Pourquoi avant 20h on contamine moins? Pourquoi après 20h?
C'est-à-dire que, bon, d'abord, on a vu cet été, l'un des gros problèmes sur les lieux touristiques, c'était notamment les jeunes qui, évidemment, cherchent à sortir, s'occuper. Et dans beaucoup de lieux touristiques, les préfets ont pris des mesures de fermeture des établissements le soir, parce que c'est le soir où ils se retrouvent dans la journée, ils peuvent vaquer à d'autres occupations. Donc c'est quand même le soir où la problématique est forte, et manifestement sur les Bouches-du-Rhône, c'est le cas. Il faut se souvenir qu'il y a un mois, le préfet du Var a pris des mesures extrêmement fortes aussi sur la côte varoise, Saint-Tropez pour ne pas le nommer. Donc il y a aussi par moment, il y a des avertissements, les avertissements ne sont pas suivis d'effets et donc on passe à la phase coercitive.
Agnès Récaribon.
Oui, on sait que si on attend que les patients arrivent à l'hôpital, on a pris du retard par rapport à la mise en place des mesures barrières. Donc moi, je trouve que le message du préfet des Bouches-du-Rhône est tout à fait pertinent. On a des indicateurs qui montrent qu'il y a une circulation, mais pour l'instant, ça reste des patients qui sont peu graves et qui n'entraînent pas de saturation des hôpitaux, mais qui sont néanmoins propagateurs de l'épidémie et qui vont impacter des personnes à risque. Et tout l'enjeu, c'est de mettre en place les mesures plus strictes pour justement permettre d'éviter la contamination des personnes à risque et du coup l'impact sur le système sanitaire. Donc tous ces indicateurs d'augmentation du virus et notamment en fonction des populations à risque sont des indicateurs qui sont fiables, qui permettent justement de mettre en place les procédures nécessaires pour éviter de se retrouver avec une saturation des hôpitaux.
Ce que je comprends de ce que vous nous expliquez, d'ailleurs juste Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur disait ce matin, il n'y avait pas de doute, oui l'épidémie reprend, mais ce que vous nous expliquez c'est qu'elle reprend parce qu'elle devait reprendre puisqu'on a relancé l'activité, mais qu'elle est encore sous contrôle.
Ou
est-ce qu'on n'en sait rien?
Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que le virus, il n'a pas quitté le territoire à partir du moment où on a déconfiné. Le virus continue à circuler à bas bruit. On s'est armé avec des indicateurs multiples. Il y a plusieurs indicateurs. Il y a l'incidence, mais il y a aussi ce qu'on appelle le taux de positivité, qui est très important, parce qu'il nous donne une idée du nombre de gens porteurs du virus sur une population de gens testés.
Il est à 6,2 à Marseille.
Voilà, il monte. Alors, oui, c'est ça.
C'est beaucoup.
C'est important.
Oui, ça commence à être très important. Donc, on a des indicateurs qui nous disent attention. Nous, on a mis en place des surveillances dans les eaux usées aussi, dans la région parisienne. On voyait dès la fin du mois de juin que le virus commençait à réapparaître. Donc, sans savoir vraiment si cet indicateur était réellement pronostique, on avait le sentiment quand même que le virus se remettait en circuler au début de l'été.
Et là, on en est où, dans les eaux usées?
Là, on est sur un plateau, mais on est bien monté. Là, on est sur quelque chose en région parisienne qui commence à être très significatif. Oui. Là, on sait que ça circule, il n'y a pas de problème. On savait aussi que l'été serait... Les gens ont beaucoup souffert du confinement, donc on savait qu'avec les congés, il y allait avoir forcément une envie de se retrouver, d'aller voir la famille qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs mois. Donc on savait qu'il y avait une zone à risque. Moi, c'est vrai que cette hypothèse d'une météo favorable qui éliminerait le virus durant l'été, ça nous a aidé à passer le printemps, mais on savait que c'était qu'une hypothèse de travail. On voit bien aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, que cette hypothèse-là est battue en brèche. Je pense qu'il faut être vigilant. On a des indicateurs et plus on interviendra vite, plus on va régler le problème. Et je pense qu'il faut intervenir aussi auprès des gens en leur disant « Vous êtes jeune, vous risquez rien, vous risquez peu, pas rien, parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont fait des formes graves. En revanche, pensez aux autres et pensez aux gens que vous risquez de contaminer et qui risquent beaucoup. »
Ça fait longtemps qu'on le dit.
Eh bien, ce n'est pas grave, il faut le répéter. C'est un acte de solidarité. Je pense qu'il faut vraiment...
À partir de quand est-ce l'évoquer. Qu'on pourra dire, et non pas que c'est ce qu'on souhaite hein, les uns les autres, mais que l'épidémie n'est plus sous contrôle. On dit clairement, et on en a parlé hein, plusieurs fois avec vous, Anne-Claude Crémieux, sur ce plateau, ici même, quand on parlait encore à l'époque des clusters, c'est une vieille histoire, parce que maintenant, je rappelle qu'il y a 38 départements français qui sont aujourd'hui placés, on ne dit pas en vigilance, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, on dit en vulnérabilité, état de vulnérabilité. 38 départements, on gère encore.
Attendez, je pense que le mot contrôle, il est
inapproprié,
pas adapté.
Non, pourquoi?
Pas adapté. Ben parce qu'on le voit bien. On le voit bien, effectivement, la circulation augmente et tout va dépendre de nos capacités, encore une fois, à répondre, c'est-à-dire finalement freiner sa diffusion par ces mesures barrières, par le masque, évidemment un outil extrêmement important, et aussi par notre capacité à isoler les personnes infectées. Et tout dépend de ça. Donc, aller dire finalement qu'on va contrôler, alors même qu'au fond, on est en pleine action, je veux dire, on est en pleine offensive pour essayer de le maîtriser, je trouve ça, au fond... peut-être imprudent.
Le gouvernement, en tout cas, a choisi de repousser l'annonce de son plan de relance qui était prévu cette semaine. L'urgence en cette rentrée, on l'a bien compris, elle est d'abord sanitaire. Le ministre de la Santé évoque une situation à risque avec une reprise de l'épidémie qui s'accélère notamment, on l'a dit, dans les Bouches-du-Rhône. Cet après-midi, à Marseille, le préfet évoque une situation alarmante. Ce sont ces mots. Antoine Magnan, Aubry Perrault et Maxime Liogier.
Il y a une urgence économique.
Pour les membres du gouvernement aussi, l'heure de la rentrée a sonné. Une rentrée médiatique d'abord, trois ministres invités à la radio ce matin et une longue interview d'Olivier Véran publiée hier avec un message. En cette fin d'été, la situation sanitaire est redevenue préoccupante. C'est le cas à Marseille, où le préfet a pris la parole dans l'après-midi.
Cette situation, même si elle ne se traduit pas au moment où nous parlons sur l'appareil hospitalier, est bien suffisamment alarmante pour nécessiter que des mesures complémentaires puissent être envisagées.
Dans les prochains jours, certains établissements de la cité phocéenne pourraient connaître des restrictions de leurs horaires d'ouverture et une interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes est à l'étude. Depuis plusieurs semaines, les chiffres nationaux ne sont pas bons. Hier, 4897 nouveaux cas ont été enregistrés en France, un record depuis la fin du confinement. Les voisins européens connaissent également une explosion des nouveaux cas en Italie, en Allemagne, mais surtout en Espagne, avec plus de 8000 nouvelles contaminations quotidiennes. Dans ce contexte, l'exécutif chamboule son calendrier. Vendredi, à l'issue d'une rencontre entre Emmanuel Macron et Jean Castex à Brégançon, est décidé un report de la présentation du plan de relance, prévu initialement ce mardi.
Le président de la République et le Premier ministre ont estimé, et ils ont raison, qu'il fallait sans doute resserrer un certain nombre de boulons dans cette rentrée pour garantir la sécurité sanitaire. C'est ce qui va être fait dans les prochains jours. Ça ne change rien, je dis bien absolument rien, aux mesures qui seront prises dans le cadre de ce plan de relance. Les mesures sont prêtes, le plan de relance est prêt.
À la place de ces annonces, dès demain, un conseil de défense se tiendra à l'Élysée pour faire le point sur les différents protocoles sanitaires et les questions demeurent. Dans les écoles d'abord, les masques seront obligatoires en classe à partir de la rentrée le 1er septembre. Un budget pour beaucoup de familles, conteste l'opposition.
Si le gouvernement décide que la discipline consiste à mettre des masques à des gosses de 11 ans, alors le masque doit être gratuit, comme il doit l'être pour toute la population.
Les syndicats enseignants soulignent quant à eux l'impréparation du gouvernement.
Nous, ce qu'on aurait souhaité, c'est davantage de réactivité de la part du ministère. Dès lors qu'à partir du 10, 12, 13 août, les choses devenaient évidentes, que finalement la situation se dégradait, là, il fallait plus de réactivité. Là, on est 10 jours après la remontée des indicateurs et la seule information qu'on a, c'est le masque obligatoire en collège et en lycée.
Dans les entreprises aussi, le travail s'effectuera masqué à partir du 1er septembre. Les contours sont encore flous, mais la ministre du Travail a précisé ce matin les sanctions qui pourraient s'appliquer.
C'est une faute comme tout non-respect d'un règlement intérieur dans une entreprise. Mais je pense que chacun doit d'abord se dire que c'est sa responsabilité pour se protéger, pour protéger ses collègues, pour protéger ses proches. Les services du ministère du Travail seront présents. Ils seront présents pour conseiller, pour accompagner et puis aussi pour contrôler le bon respect de ces gestes barrières.
Les enjeux sont importants. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, près d'un quart des foyers de contamination sont situés en entreprise.
Cette question qui nous est posée ce soir par Henri de Gironde, pourquoi la présentation du plan de relance économique est-elle retardée d'une semaine, Bruno Gelli ?
C'est une bonne question du téléspectateur, parce que c'est vrai que le gouvernement l'avait promis à cette date, pour cette semaine, et que même ça avait été justifié, parce que beaucoup de pays ont fait leur plan de relance plutôt au début de l'été. La France avait fait le choix de prendre son temps et de le présenter à la fin de l'été. Et là, tout à trac, le président de la République a décidé, avec le Premier ministre, vendredi, lors de leur rencontre à Brégançon, de le reporter. Alors, il y a l'explication officielle qui a été donnée dans votre reportage. C'est vrai qu'il y a ce rebond, ou en tous les cas, ce qui s'apparente à un rebond de la crise sanitaire et qui, évidemment, préoccupe les autorités.
Et qui les aurait surpris, du coup.
Il y a surprise, parce que c'est vrai que c'est sans doute ça circule sans doute plus que ça avait été envisagé. Et du coup, pour pas, j'allais dire, brouiller les messages, multiplier les messages, faire les choses dans le bon ordre, d'abord se concentrer sur la crise sanitaire, surtout avec la rentrée des classes. Le 1er septembre, donc qui approche et qui va sans doute être un des moments clés de cette rentrée, et du coup reporter la présentation du plan de relance à la semaine prochaine. Ça, c'est un peu la version officielle assez crédible par ailleurs, mais ça donne un effet de cafouillage. Il y a aussi une autre hypothèse, c'est que le plan n'était pas totalement prêt, que le président de la République n'était pas satisfait de certains points du plan, et que du coup il se donne un peu de temps, il met les choses dans un autre ordre. Alors après, moi, je crois que la crise, l'urgence est autant sans doute économique et sociale que sanitaire.
C'est ce qu'a dit ce matin le ministre de l'économie.
Oui, c'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Là, ils sont en train de faire un choix qui est d'abord la crise sanitaire et ensuite le plan de relance. Or, on sait que sur le front économique, là aussi, il y a plutôt pas de bonne surprise, puisque l'économie, le rebond économique perd un peu de sa vigueur, celui qu'on avait constaté à la sortie du déconfinement. On voit que l'activité était quand même en net recul par rapport à l'année dernière, et ça ne repart pas aussi vite qu'espéré au début de l'été.
Un mot sur l'école avec vous, Bruno Gelli. Il y aura une conférence de presse du ministre de l'Éducation nationale mercredi. On entendait dans le reportage des responsables syndicaux, des enseignants qui disaient on aurait aimé être un peu plus préparé à cette rentrée, une rentrée qu'on pouvait anticiper avec la contrainte qui est la nôtre aujourd'hui, à savoir celle d'une reprise de l'épidémie du Covid.
Ouais. Là aussi, d'abord, il y a un message clair du ministre de l'Éducation nationale, c'est on ne reporte pas la rentrée. Là, au moins, il y a une décision qui a été prise, qui n'est pas si évidente. Souvenons-nous, pour le déconfinement, il y a eu beaucoup d'allers-retours, l'école pas obligatoire, l'école obligatoire. On a beaucoup parlé de ça ici même. Là, cette fois-ci, la décision est claire, il y a reprise des cours pour tous les enfants de ce pays. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne décision, parce que là, ça allait sans doute poser beaucoup d'autres problèmes. Il faut quand même voir que beaucoup d'enfants sont passés sous les radars du téléenseignement. La deuxième chose, et là, on rentre dans un domaine beaucoup plus flou, c'est les messages un peu... Alors, pour les maternelles, les masques ne sont pas obligatoires pour les enseignants, les masques obligatoires pour tous les collégiens et les lycéens, mais on voit bien que ça pose aussi des difficultés, parce que finalement, le protocole a été très allégé. Il reste les masques et les gestes barrières, mais bon, voilà, il va quand même y avoir des questions qui vont se poser autour des cantines, autour de... Bon, voilà, donc c'est quand même une grosse difficulté en perspective pour les mairies, des difficultés aussi parce qu'il y a des enseignants qui feront exercer leur droit de retrait, ben oui, ceux qui sont pas en très bonne santé, qui vont pas venir, donc du coup, il va sans doute y avoir des problèmes aussi d'absence d'enseignants relativement importantes, et ça conduira aussi les enfants à être chez eux, et donc avec les conséquences des parents qui ne pourront pas aller travailler. Donc on va quand même être dans une situation que le ministre va sans doute encore éclaircir mercredi, mais on voit bien qu'on est dans une rentrée un peu dans le flou, parce que bah oui, c'est une rentrée compliquée. Vous ajoutez à cela la question du coût des masques pour les
familles. On va en parler du coût des masques, mais d'abord si on revient sur... D'ailleurs, il y aura un conseil de défense sur ce sujet-là demain matin. Je voudrais me tourner vers vous, Vincent Maréchal, sur la question des masques évoquées à l'instant par Bruno Jeudy. C'est vrai qu'on a bien compris, hein, masque obligatoire dans l'entreprise, et on va en reparler aussi, mais pourquoi pas les maternelles? Pourquoi est-ce qu'on peut imaginer un bon usage du masque pour les collégiens qui vont se retrouver à 30 par classe à la rentrée, là, la semaine prochaine, avec leur masque, dès la 6e?
Non, mais je pense qu'il y a une question de bon sens. D'abord, on peut rappeler quand même que le masque, ça marche bien, donc c'est pas idiot de l'utiliser. Il y a eu un débat sur les enfants, sur leur capacité à transmettre. Par analogie avec la grippe, on avait supposé à un moment donné qu'ils produisaient beaucoup de virus, qu'ils contaminaient beaucoup. On est revenu après là-dessus. Il y a encore un débat.
On
qui est
à peu près sûr de
clos.
Nous sur le...
Non, il y a un débat. Il y a un débat qui continue. Il y a des publications qui sont sorties disant que notamment les enfants malades de moins de 5 ans crachaient beaucoup plus de virus que les autres. Mais on parle d'enfants malades, alors que les enfants symptomatiques sont rares. L'infection est plutôt asymptomatique chez les petits. Non, ce qui est clair, c'est qu'un enfant en maternelle, lui imposer un masque, c'est difficile. Il y a éventuellement un risque ce sont des petits. Par ailleurs, le problème en maternelle, c'est que les gamins partagent les jouets. La distanciation est un fantasme en maternelle.
Au collège aussi.
On peut l'imaginer.
Au collège aussi, la distanciation au collège, non ?
On peut essayer d'expliquer un peu plus facilement. J'ose imaginer qu'au collège, on peut entendre le message un peu mieux qu'en maternelle, mais il ne sera pas respecté à 100%. La question qui va se poser, c'est la surveillance des écoles. Et quand on détecte un cas, quelles sont les mesures qu'il va falloir prendre?
Le professeur Delfrécy dit il y aura des contaminations à l'école et on va les gérer. Il ne peut pas dire autre chose.
Non, on est tous d'accord. Mais c'est vrai que l'ampleur de la circulation du virus dans les écoles risque de poser des problèmes de fonctionnement. Comme vous venez très bien de le dire, si on ferme des classes, on stabilise les parents à la maison, donc c'est des parents qui n'ont pas tous pouvoir aller travailler, on va se retrouver dans une quadrature du cercle où il va falloir apprendre à gérer. Je crois qu'il n'y a pas de solution idéale, il y a un compromis qu'on essaie de chercher.
Ajuster au jour le jour, comme le disait le crâne.
Surtout avant l'été, on a bien expérimenté, on a vu comment ça fonctionne dans l'école. On n'a pas eu le temps de vraiment le voir dans les collèges ou les lycées qui n'ont pratiquement pas fonctionné quelques heures au moment de la fin de l'année scolaire. Donc là, ça va vraiment être une expérience in vivo à partir du 1er septembre.
Mais on parle aussi de 4% d'enfants décrocheurs qu'il va falloir refaire adhérer au système scolaire. On ne peut pas les laisser en déshérence.
Juste les profs décrocheurs.
Ne pas porter le masque en entreprise sera passible de sanctions. Ça, c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne ce matin. Il y a des clusters dans les entreprises aussi. Donc là, maintenant, ce sont de nouvelles règles avec lesquelles il va falloir apprendre à travailler.
Oui, un quart des clusters sont en entreprise, ce qui n'est pas forcément une surprise puisqu'on se retrouve sur nos lieux de travail. Donc il y a des clusters comme il y en a dans d'autres lieux, y compris dans les zones scolaires. Oui, il va falloir apprendre à travailler dans les zones collectives des entreprises, sauf pour les bureaux fermés, les réunions avec masques. Oui, ça va être une forme.
Mais... Il y a un sujet sur la gratuité des masques qui va monter, à votre avis, notamment concernant l'école.
Il y a déjà eu une offensive avant l'été d'une partie des députés de gauche et notamment de la France insoumise. C'est un sujet qui en partie a été réglé un peu par certaines collectivités. La région Île-de-France, par exemple, Valérie Pécresse a annoncé que des masques gratuits seraient distribués pour les enseignants et pour les lycéens. Oui, c'est un sujet parce que d'abord, c'est un budget. On estime, les associations de consommateurs estiment que c'est à peu près un peu plus de 200 euros pour une famille de 4 personnes pour les masques chirurgicaux, un peu plus de 100 euros pour les masques tissus par mois. Donc c'est quand même un budget. Et alors bon, certains disent c'est une fourniture scolaire. Oui, c'est une fourniture. C'est ce que dit Jean-Michel Blanquer. Mais c'est une fourniture scolaire qui est coûteuse et qui s'ajoute déjà à une rentrée qui est assez chère, même si la prime de rentrée a été augmentée pour les familles les moins aisées.
Oui, effectivement, bon, la nécessité d'ouvrir les écoles, je crois que c'est un constat qu'ont fait beaucoup de pays. Heureusement, parallèlement à des données, je dirais, sur en tout cas les enfants inférieurs à 10 ans, qui sont plutôt toutes dans le même sens, c'est-à-dire que au fond, c'est dans cette tranche d'âge-là que, d'une part, on fait très peu de formes graves, et d'autre part, que la transmission est probablement la moins importante. Et puis, on a aussi, et ça, je crois que c'est vraiment une constante dans cette épidémie, il faut regarder ce qu'ont fait les autres. Et ouais. Quand, en Australie, ils ont ouvert les écoles, ils ne les ont pas fermées, ou très peu, vraiment, au moment du pic, et c'est vrai qu'ils ont publié que, finalement, ils avaient eu extrêmement peu de cas dans leurs écoles. Donc tout ça, ça va dans un sens. Plus, vous l'avez rappelé, l'importance évidemment de l'éducation scolaire, ça va dans le sens de faire cet effort. Alors après, effectivement, le problème de l'impréparation que dénoncent, je dirais, nos collègues professeurs, malheureusement, c'est quelque chose que nous, dans le domaine sanitaire, on a connu avec les tests, qu'on a connu avec les masques. C'est vrai qu'on a toujours l'impression qu'on a une distance de temps. Or, dans cette crise, comme l'a très bien dit la première ministre néo-zélandaise, ce qui compte, c'est de faire le maximum, tout ce qu'on peut, tout de suite. Donc c'est réactivité et anticipation.
Il y a encore tout un tas de questions sur l'école, mais qu'on évoquera sans doute dans les jours qui viennent, sur cantine, pas cantine, hein, parce qu'à l'époque, on faisait prendre les repas des enfants à leur table. Va-t-on pouvoir assurer des repas collectifs? Ça, ce sont des questions qui ne sont pas encore arbitrées. Il y a peut-être un endroit où on est totalement prêt, c'est à l'hôpital.
Alors, je ne dirais pas totalement prêt.
Mince. Bon, j'aurais essayé.
Je dirais, il y a beaucoup de choses qui ont très bien marché pendant la première vague et qu'il est nécessaire de réappliquer. Et donc ça, effectivement, notamment sur les admissions directes dans les unités Covid suspects, sur les admissions, enfin les appels au 15, la détermination des signes de gravité de ce qui relève de l'hôpital et ce qui relève de la ville pour ne pas surcharger les structures d'urgence et les hôpitaux par des patients qui n'en auraient pas besoin. Donc ça, effectivement, l'appel au 15, ça marche très bien. Et les admissions directes dans les services hospitaliers, ça marche très bien.
Pardon, vous avez des signaux d'augmentation de nombre d'appels au 15, qui est aussi quelque chose que vous surveillez, je le sais, au quotidien, qui traduirait une reprise de l'épidémie?
Comme le lait sur le feu, parce qu'effectivement, quand les appels au 15 montent, l'hôpital est impacté 10 jours après.
Et là, on n'y est pas.
Pour l'instant, depuis juillet, il y a une augmentation des appels, sans augmentation des transports. Ce sont les deux indicateurs qu'on regarde de façon très appuyée, parce que la population est plus jeune, parce que c'est de la population donc, qui a moins de signes de gravité et qui se gère en ambulatoire. Donc pour l'instant, c'est plutôt en plateau sur les appels et en transport, ça reste relativement bas. Alors ça dépend des régions, mais en tout cas sur la région Île-de-France où j'ai les chiffres au quotidien, ça reste raisonnable sur les transports Covid. Après, notre inquiétude, c'est qu'au moment de la première vague, toutes les régions n'étaient pas touchées au même moment. C'est-à-dire que dans les régions les plus impactées, le Grand Est, l'Île-de-France, Bourgogne, Franche-Comté, on a eu des renforts d'autres régions, on a eu ces et parce qu'il y avait des zones qui étaient moins touchées. Là, il est probable quand même que toutes les régions soient touchées et que ces renforts interrégionaux qui ont été essentiels hein, dans la gestion de la crise soient pas une aide partout. Et donc, il faut, pour l'instant, on est en train de mettre les plans d'augmentation. On avait une conf-call récente sur les plans de SAMU, sur les plans des structures d'urgence et des hôpitaux, mais plus en intra-régional pour le moment. Qu'en interrégion, parce qu'on pense qu'il y aura ce phénomène partout en France.
Pour l'instant, vous expliquez le fait qu'il y ait une reprise claire, et tout le monde est d'accord là-dessus, de l'épidémie, mais pas de reprise, pas d'augmentation significative du nombre d'admissions en réanimation ou dans les centres hospitaliers. C'est uniquement parce que c'est une population jeune qui est touchée, c'est ce que vous diriez?
Alors, il y a une petite quand même augmentation des admissions. Hein. Par rapport à ce qu'on a connu début juillet, où on n'avait pratiquement plus de formes graves, là, on voit des patients revenir quand même en réanimation. On voit des hospitalisations dans les unités Covid. Mais ça reste... encore peu important. Mais si on se base sur ce qui s'est passé en février-mars, où on a eu une progression à bas bruit comme ça, et puis...
Un coup, un cap. Ouais.
Voilà. C'est ça que l'on craint. Et aujourd'hui, le fait qu'il y ait le programmé et le non-programmé qui a...
Le programmé et le non-programmé, donc les interventions.
On a déprogrammé, en fait, l'ensemble des hôpitaux dans les régions très touchées pour centrer les hôpitaux sur la gestion de crise Covid et décaler le moins urgent. Là, on sait qu'il faut garder les deux et que la problématique qu'on a en France majeure, qui est l'aval des structures d'urgence avec cet engorgement des structures d'urgence, nous inquiète au jour d'aujourd'hui.
Est-ce que, encore une fois, le but n'est pas vraiment d'inquiéter les gens qui nous regardent, mais d'être réaliste. Est-ce que, là, on est sur les retours de vacances, certains sont déjà rentrés depuis longtemps, d'autres vont le faire dans la semaine qui vient. Est-ce que cette phase-là est une phase à risque? On parle des brassages de population. Est-ce que le pire est à venir en termes de contamination avec, encore une fois, des gens qui sont partis dans le sud, dans l'ouest, dans le nord de la France et qui vont revenir chez eux?
Dès lors que le virus ne se déplace pas tout seul, mais parce que quelqu'un le transporte, c'est vrai que ce qu'on redoutait, c'est qu'avec les mélanges de population au moment des congés, il y a effectivement des gens qui partent de régions où le virus circulait quand même plus qu'ailleurs. Je pense notamment à la région parisienne, le Grand Est, et aillent dans des régions où on savait qu'il n'y avait quasiment pas de circulation du virus. Donc on l'a mesuré à travers différents indicateurs. Et ce brassage en France, mais c'est probablement la même situation en Espagne, probablement la même situation en Allemagne et en Italie, ce brassage des congés fait que des gens portent le virus et rencontrent des gens qui le portent.
C'est ça qu'on va surveiller dans les jours qui viennent.
C'est surtout ce qui est ennuyeux, c'est qu'on a l'impression, du coup, on est parti d'une situation de cluster, comme on le disait tout à l'heure, qui peut être plus simple à surveiller, à une situation de circulation diffuse qui risque d'être plus compliquée à surveiller. Et comme vous le dites, on risque d'avoir cette mosaïque qui a changé de couleur pendant des mois, cette mosaïque, elle risque de se mélanger un petit peu. Donc c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est vrai que ça
sera pour le surveiller, il faut tester. Hein, au retour des vacances, pour ceux qui n'ont pas respecté parfois les gestes barrières, tous les gestes barrières, les tests s'imposent. Mais les délais, encore aujourd'hui, pour obtenir un rendez-vous et pour obtenir ces résultats, restent assez longs. Alors certains chercheurs misent sur de nouveaux tests plus facile et beaucoup plus rapide à réaliser, déjà plébiscité d'ailleurs par d'autres pays européens. Reportage Pierre Barbin, Dominique Lemarchand et Juliette Perrault.
Et s'il suffisait de souffler pour être testé? C'est le pari de cette équipe de chercheurs basée à Lyon. Au cœur de leur projet, cette machine utilisée dans tout le service de réanimation auprès de patients avec ou sans symptômes du Covid-19.
Vous prenez une inspiration, vous remplissez bien vos poumons et ensuite vous soufflez doucement dans l'instrument de façon à souffler naturellement. Alors là, typiquement, on voit ces cycles de respiration. Donc dès qu'il souffle dans l'instrument, on va pouvoir voir les différentes molécules qui vont être exhalées.
Un ensemble de données qui va permettre de réaliser une cartographie des molécules présentes dans le souffle du patient. Ces informations seront ensuite recoupées. Objectif ultime: repérer des traceurs du coronavirus.
On saura quel traceur regarder. On pourra très bien imaginer avoir un système qui est vert ou rouge si on arrive à aboutir à l'identification des biomarqueurs.
Simple comme un éthylotest. Le rêve pour des autorités sanitaires qui ont l'ambition de tester massivement. L'étude n'en est encore qu'à ses balbutiements. Les premiers résultats sont attendus à l'automne. Une alternative peut-être au test PCR majoritairement utilisé en France. Mais ailleurs en Europe, comme en Espagne, en Allemagne ou encore en Belgique, une autre méthode de dépistage est de plus en plus plébiscitée, les tests salivaires, aux résultats beaucoup plus rapides. Au Royaume-Uni, un de ces tests a été validé au début du mois d'août par le gouvernement pour être utilisé notamment dans les hôpitaux et les maisons de soins. Mais la société qui le développe voit déjà plus loin.
Les tests PCR sont vraiment désagréables. Si vous pouvez faire des tests salivaires et si vous pouvez les rendre faciles d'utilisation, vous obtiendrez des degrés de conformité plus élevés. Vous pourrez faire plus de tests, toucher plus de personnes et vous contiendrez l'épidémie plus rapidement.
En France, ces tests jugés moins fiables ne sont pas encore validés par les autorités sanitaires. Dans ce laboratoire de Montpellier, les chercheurs sont à pied d'œuvre. Le test salivaire qu'ils ont élaboré permettrait d'obtenir un résultat en à peine une heure.
Il va insérer donc le révélateur colorimétrique, 1 microlitre. Et donc, en fait, on aura la réponse instantanée. Orange, on aura un échantillon négatif. Et jaune, un échantillon positif. C'est rapide, c'est simple, c'est des tout petits volumes, donc c'est pas cher. Donc voilà, il y a énormément d'avantages et le rendu des résultats est direct en fait.
Des tests qui n'ont pas vocation à remplacer les tests PCR. Ils seraient complémentaires.
Nous, on voulait viser les circonstances qu'on a besoin de réponses rapides, par exemple les aéroports, mais aussi sur les terrains d'intervention des pompiers, c'est pour ça qu'ils l'utilisent aujourd'hui, pour les militaires, pour l'entrée des EHPAD. Donc chaque fois qu'on a besoin d'avoir une réponse tout de suite, est-ce que je peux rentrer donc en moins d'une heure, eh bien, on peut utiliser notre test. Je pense que nasopharyngé, salivaire et peut-être d'autres pourront être un dispositif complet pour aller, on va dire, anticiper sur les reprises épidémiques.
À quelques jours de la rentrée, les associations de pédiatres appellent à généraliser les tests salivaires, moins douloureux pour les enfants.
Et cette question qui nous est posée ce soir, pourquoi les tests salivaires, beaucoup plus simples d'utilisation, sont-ils si longs à venir ?
Alors, oui, en France, mais par exemple aux États-Unis, ils viennent la FDA vient d'autoriser un test avec un prélèvement salivaire. Et ensuite, le prélèvement va dans un laboratoire comme c'est fait et on a les résultats en 1 à 2 jours. Alors, pourquoi ils ont autorisé un prélèvement salivaire ? Parce qu'effectivement, ça a été bien dit et on l'a vu au mois de juillet et d'août. Le prélèvement nasopharyngé n'est pas très agréable. Et surtout, ça a été quand même très clairement le frein majeur identifié à la rapidité des rendez-vous. On nous a dit, au fond, ce n'est pas tellement les tests qui manquent, c'est le personnel pour faire des prélèvements nasopharyngés. Or, évidemment, le gros avantage du test salivaire, c'est qu'une personne peut elle-même prélever sa salive. Donc, du coup, on lève un frein important. Ça, c'est le premier frein. Deuxième chose, on a en plus des tests salivaires qui sont ce qu'on appelle des tests rapides, c'est-à-dire ce qui, comme ça a été présenté, qu'on peut avoir les résultats en
une heure.
Et ça, effectivement, en France, ça n'a pas été encore autorisé. C'est effectivement en train d'être évalué assez rapidement. Probablement, en tout cas ce qui est dit, il y aura une diminution assez faible, mais une diminution quand même de la sensibilité. Mais ce que tout le monde dit, et ça paraît parfaitement légitime, c'est que pouvoir tester beaucoup plus de gens beaucoup plus rapidement, sur le plan du contrôle de l'épidémie, c'est beaucoup plus efficace que de tester peu de gens avec un test parfait.
Est-ce que les chiffres augmentent parce qu'on teste plus ?
Attendez, quels chiffres ? Les chiffres actuels ?
Oui, en France.
Plus vous cherchez, plus vous trouvez. Hein. Donc, il y a une sorte de règle un peu logique. C'est pour ça que tout à l'heure, on a distingué cette notion d'incidence qui est faite parce qu'effectivement, plus on teste, plus on va trouver de positif, de ce qu'on appelle le taux de positivité, c'est-à-dire que dans une population qui est à peu près constante, le nombre de gens qui portent le virus est plus important
d'accord.
que ce qu'il était. Donc c'est ça aussi qu'il faut commencer à regarder. Sur les tests, je voudrais effectivement, c'est ce qui est dit tout à fait exact, hein. Il y a une question de confort, le test nasopharyngé n'est pas très agréable. Il y a une question de rapidité du test, donc il y a une multiplication de techniques. Ce qui est important, c'est effectivement de faire attention, c'est pour ça que ça prend du temps, à ce qu'on appelle la sensibilité du test, c'est-à-dire sa capacité à trouver quelqu'un qui est vraiment porteur et à ne pas faire d'erreur, et à l'inverse, à ne pas non plus avoir de ce qu'on appelle de faux positifs. Parce qu'il y a une décision, un test, et c'est toujours une réponse à une question. Donc, si la question vous apporte une réponse qui n'est pas bonne, bah, vous risquez aussi de lâcher dans la nature quelqu'un qui est infecté en disant il n'y a pas de problème. Donc, on est obligé de s'assurer que c'est à peu près correct. Après, il y a des tests originaux que vous avez évoqués en tout début de reportage.
Sur le souffle, avec notamment le souffle, sur le comme souffle, les éthylotests.
Voilà, qui ne portent pas du tout sur une recherche de virus. Ça, je crois qu'il faut vraiment bien le dire. Mais qui partent de l'hypothèse que les gens qui sont infectés peuvent avoir une haleine qui a une composition chimique différente. Et donc, il y a différentes. On dit ça aussi de la transpiration. Et donc, il y a des essais intéressants qui sont faits. Il y a une start-up israélienne qui a développé un petit test qui a l'air de donner des résultats intéressants. Je n'ai pas vu de résultats scientifiques, mais en tout cas, l'approche est intéressante. Et puis, on a aussi des collègues en France et en Grande-Bretagne, notamment un collègue qui s'appelle Dominique Grandjean à l'École nationale vétérinaire, qui dresse des chiens à repérer les gens qui sont infectés. Et ça, ça a été fait avec succès pour des gens qui avaient des cancers. Notamment, la maladie de Parkinson également peut être détectée avec des chiens qui sont dressés. Donc, on est dans des dispositifs qui se multiplient. Encore une fois, il faut le bon test au bon endroit.
Mais le problème, c'est que là, il faut être opérationnel.
Oui,
croyez pas à la technique des chiens, mais il faut être opérationnel. Est-ce qu'on est, Olivier Véran disait qu'on est en capacité de réaliser 1 million de tests s'il le faut par semaine. Hein, c'est ce qu'il disait dans cette interview qu'il a accordée au Journal du Dimanche. Est-ce qu'on est opérationnel sur une politique massive de tests?
Moi, ce qui est aujourd'hui...
En cette rentrée, encore une fois, dans le contexte dans lequel nous sommes, avec un moment où on a levé le couvercle hein, de la cocotte pendant les vacances en se disant bon, ben, on va respecter les gestes barrières, mais vivre presque normalement, en tout cas, on parlait des jeunes tout à l'heure. Est-ce qu'en cette rentrée, on est capable de monter en tension sur des tests massifs?
Je crois qu'il ne faut pas voir que le nombre de tests qu'on peut faire, il faut voir dans quel délai on aura la réponse. On sait qu'aujourd'hui, les gens qui sont infectés, quand il y a des symptômes, produisent et peuvent contaminer leur environnement quelques jours avant, 2-3 jours avant probablement, et puis jusqu'à une semaine après. C'est vrai que si au moment des symptômes, on attend 3-4 jours avant de faire le test, que le test, on met 48 heures à rendre le résultat, bah vous comprenez bien qu'on a perdu 5 jours et que dans un cadre comme ça, on a beau faire 700 000 tests, si on rend les réponses avec 5 jours de retard, ça n'a pas d'intérêt. Donc on a raccourci considérablement. Je crois qu'on était encore il y a un mois à 4 jours et demi entre le prélèvement, enfin les symptômes, le prélèvement. Aujourd'hui, on a 3 jours et demi, mais c'est encore beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une période où malheureusement, on risque de contaminer si on n'est pas isolé dans l'attente du résultat.
Oui, il faut aller plus vite, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un quart des personnes qui présentent des symptômes qui sont dépistées dans les 2 jours. Donc c'est évidemment insuffisant pour contrôler l'épidémie.
Pourquoi
on n'a pas le choix.
Pourquoi d'ailleurs un quart?
À cause de cette histoire, c'est-à-dire que si vous téléphonez pour avoir un rendez-vous, vous l'avez probablement fait, ou quelqu'un de votre entourage l'a fait, les délais sont trop importants. C'est-à-dire qu'il faut bien le dire, en juillet et en août, rien n'était fait pour inciter les personnes à prendre un rendez-vous, sinon c'était 4 heures de queue. Or, c'est clair, il faut encourager le plus possible cette démarche, donc ça doit être facile, ça doit être simple et ça doit être rapide.
Et il y en a qui viennent aux urgences pour se faire tester?
Alors, non, assez peu, en fait, parce que, justement, cet appel aux 15 permet de les orienter vers les médecins traitants et vers les laboratoires qui sont disponibles. Je pense que cet enjeu d'avoir une réponse rapide, elle est majeure pour plein de situations médicales, mais on parlait des jeunes tout à l'heure. Les jeunes, ils supportent mal le fait d'être isolés en attendant un éventuel résultat. Si on veut limiter la contamination des jeunes qui sont post-symptomatiques ou asymptomatiques, ces tests, effectivement, il y a des faux négatifs. Donc, on peut être faussement rassuré, sauf qu'on va pouvoir toucher une population beaucoup plus large et limiter ces contaminations. Et je crois que c'est en Allemagne où ils ont fait ces tests avant des rassemblements, de concerts, etc. Si on avait la possibilité, sur les Champs-Élysées, de pouvoir faire des tests rapides avant, et puis surtout dire aux supporters de foot, par exemple, de se faire tester après des rassemblements comme ça, avant d'aller voir leur mère ou leur grand-mère, ou grand-père d'ailleurs, ça permettrait peut-être de ralentir justement cette propagation.
C'est gratuit les tests?
Oui, sur les PCR, c'est gratuit.
Quand on a
pas
des symptômes,
pas sur les recherches d'anticorps.
Sérologie. Ouais.
Voilà, les sérologies. Mais oui, les PCR sont gratuits.
On a parlé de l'Allemagne, on a parlé de l'Italie. Je me tourne vers vous, Bruno Jeudi, avec certains pays qui ont imposé des quarantaines. Par exemple, l'Allemagne a imposé des quarantaines aux ressortissants ou aux personnes qui étaient passées par la Belgique, qui est considérée désormais par l'Allemagne comme une zone à risque, ou à certaines personnes qui étaient en vacances dans le sud de l'Espagne. On a l'impression de retrouver une Europe où, de nouveau, chacun impose des règles qui sont liées d'ailleurs à une façon de décompter les zones à risque et de classer les zones à risque.
Les autorités allemandes ont fait le constat que dans le rebond qu'ils connaissent eux aussi, hein, tout à l'heure il y avait les chiffres qui étaient affichés dans votre reportage, 1700 je crois à la fin de semaine dernière, enfin en gros pas loin de 2000, c'est-à-dire 2 fois moins que la France, ils ont fait le constat que beaucoup de ces cas étaient des Allemands qui avaient passé leurs vacances à l'étranger. Donc il y a une préoccupation en Allemagne qui est justement de... Les Allemands vont beaucoup en vacances en Europe, dans les pays du Sud notamment, en France, en Italie, en Grèce, et donc ils rentrent, ils ramènent éventuellement le virus avec eux. Donc du coup, il y a une espèce de psychose autour de ces retours des vacanciers allemands, et donc il y a des mesures qui sont prises par les gouvernements locaux et la chancelière, hein, qui s'est dit très préoccupée par cette question. Donc on voit que dans cette fin d'été, ressurgit la question des frontières, qui avait été une des questions au début de l'épidémie, puisque ça avait fracturé les pays européens entre eux, et notamment nos voisins. Quoi.
Et avec la France, des doctrines, encore une fois, qui restent toujours différentes.
Avec une doctrine qui est à géométrie variable, ouais. suivant les gouvernements. Et c'est sans doute la France qui était la plus réticente à jouer de cette question des frontières, Emmanuel Macron l'ayant dit à plusieurs reprises dans ses interventions.
Anne-Claude Crémieux, oui, sur les retours des vacances.
Surtout le besoin de tests.
Hein.
Effectivement, on va vers l'automne et l'hiver. On sait très bien qu'il y a des infections virales saisonnières qui ne sont pas le coronavirus.
La grippe.
Et qu'effectivement, on va se retrouver avec un nombre important de gens qui vont présenter des symptômes qui seront parfaitement identiques à ceux du Covid. Et là, là encore, il vaut mieux anticiper, on aura besoin de démultiplier de façon considérable nos capacités de tests, et on aura aussi besoin de tests capables de faire non seulement le diagnostic du coronavirus, mais aussi le diagnostic des infections saisonnières. L'intérêt, effectivement, des tests grippe, Covid. Donc voilà, il faut anticiper parce que la demande va considérablement augmenter, et on l'a dit, la
réactivité. Ouais.
725 000
tests par semaine, mais avec des délais qui sont trop longs.
Et une vaccination grippale qui pourra sans doute à nouveau remettre sur le devant de la scène, parce que voilà, ce vaccin existe et il permettra aussi chez les gens vaccinés de ne pas perdre trop de temps à aller rechercher des étiologies qui seront différentes. Donc il faudra inciter les gens à se vacciner, les personnes âgées, les enfants et puis aussi la population générale.
Est-ce qu'on peut imaginer un scénario où on aurait des générations, une forme de génération qui serait totalement étanche l'une par rapport à l'autre? C'est-à-dire les jeunes qui seraient contaminés avec un virus qui continuerait à circuler avec peu d'entrées, un petit peu, vous nous avez dit tout à l'heure, de patients en réanimation dans les services hospitaliers, et une génération qui est plus à risque et qui adapterait absolument les gestes barrières, qui se mettrait justement un petit peu en forme de protection avec la reprise du virus en cette rentrée. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est un scénario qui sera un scénario favorable, hein, et qui nous permettrait d'éviter une reprise notamment du nombre de victimes? Allez-y, je vous en prie.
Non, mais moi, je me souviens de ce qui s'est passé en mars quand on a commencé à expliquer qu'effectivement, les personnes de plus de 65 ans étaient les gens les plus exposés. Ce qui s'est passé, moi, j'ai reçu des petits mots très désagréables de personnes qui m'ont dit « Mais attendez, de quel droit pouvez-vous nous demander de rester à la maison ?» Oui, effectivement, de quel droit? Juste de vous protéger.
Ouais.
Donc, on peut imaginer, par contre, que les messages sont mieux intégrés. On l'a dit tout à l'heure, énormément de pédagogie a été faite depuis le mois de mars. Et ce que je vois autour de moi, c'est que les gens les plus fragiles, il n'y a pas que les personnes âgées, il y a les gens avec des facteurs de comorbidité, ont appris à se protéger et prennent des précautions. Donc là, c'est aussi une question de responsabilité individuelle.
Et j'aurais des questions à vous poser. On va poursuivre cette discussion, mais je voudrais aller au troisième reportage, notamment sur le virus, parce qu'on entend aussi que le virus aurait perdu de sa vigueur. Et je vais avoir votre avis là-dessus. Mais d'abord, c'est une expérience de grandeur nature assez inédite. En Allemagne, des chercheurs ont tenté d'en savoir plus sur l'impact que pourrait avoir, par exemple, un concert en termes de contamination. Alors, ils ont réuni 1500 jeunes en bonne santé, un chanteur pop, des gels fluorescents, des capteurs pour tracer, modéliser la propagation du virus dans un tel cas de figure. Reportage Magali Lacroze et Emmanuel Bach.
On se croirait presque revenu dans le monde d'avant. À Leipzig, samedi, 1500 jeunes viennent de toute l'Allemagne pour un concert un peu particulier, à 8h du matin.
Je veux participer à la recherche de solutions pour aider à combattre le coronavirus.
J'ai un peu peur du virus, mais normalement on est tous négatifs là.
Car il s'agit bien d'une expérience scientifique. Pour participer, les jeunes cobayes ont tous été testés 48 heures plus tôt. Dès leur arrivée, ils reçoivent des masques FFP2, du gel hydroalcoolique et un mystérieux boîtier.
Ça sert à quoi déjà le tracker?
C'est pour les distanciations sociales.
Ah, ça sert à mesurer nos mouvements à l'intérieur du stade.
L'expérience peut commencer. Dans l'arène, la foule se déplace et prend place presque normalement. Sur scène, en jaune fluo, la star du jour, professeur Moritz, à l'origine de l'étude, donne ses directives.
Il faut bien utiliser le gel fluorescent. Quand vous serez parti, on pourra voir avec des lampes à UV quelles sont les surfaces les plus touchées et les plus à risque dans un concert.
Chaque détail compte. Pour étudier la propagation du virus, dans une salle de concert, il faut identifier la circulation de l'air d'ordinaire invisible à l'œil nu. Mais avec un peu de fumée et des calculs compliqués, tout devient possible.
On a créé un mode de calcul mathématique basé sur une expérience de vie réelle. En changeant les modes de ventilation de la salle, on crée un courant d'air qui déplace la trajectoire de la fumée. Ça permettrait d'éviter la propagation habituelle des aérosols d'un bout à l'autre de la pièce.
Les relevés de toutes ces mesures sont envoyés à l'équipe du professeur Moritz. En attendant, le concert a commencé. La chaleur monte et les cobayes se prennent au jeu. Tout au long de la journée, leurs mouvements, captés par leurs petits boîtiers, seront analysés scrupuleusement. Tout est fait pour oublier que ce n'est qu'une expérience scientifique, ou presque.
La bière ici est sans alcool, alors c'est pas très bon.
Et puis avec les masques, c'est compliqué. On a du mal à respirer, mais ça va.
Mais on espère quand même que ça va les aider et qu'on pourra revenir au concert comme avant.
Quand on veut chanter, on a besoin d'air. Mais on a très peu d'air dans les masques, alors il fait vite très chaud.
L'expérience touche à sa fin. Devant une centaine de journalistes, le chanteur profite de l'occasion pour lancer un appel un peu politique.
Vous savez, tout le secteur de la culture et l'événementiel est touché. On a tous un besoin urgent de revenir à la vie normale, sinon à la fin de l'année, il ne nous restera plus grand-chose pour vivre.
Les résultats de cette étude permettront-ils de faire rouvrir les salles de concert en Allemagne sans prendre de risques ? L'expérience de Leipzig a coûté 1 million d'euros financée par la Saxe et la Saxe-Anhalt. Désormais, la politique ne peut plus faire sans les scientifiques.
Si on assouplit les mesures de protection contre le coronavirus ou si on les durcit, c'est aux politiques de décider. Ce sont eux les responsables. Mais on a besoin des recommandations des scientifiques. Je crois qu'on sera mieux écouté si on s'appuie sur leurs résultats. Comme ça, on pourra dire, les scientifiques ont tout évalué. Ce sera bien mieux accepté par les gens ensuite de cette façon.
Les résultats de l'étude sont attendus à l'automne. Mais déjà, d'autres pays s'intéressent à l'expérience allemande. Le Danemark, la Belgique et l'Australie veulent aussi leur concert scientifique.
Est-ce que ça suffira à permettre de rouvrir les concerts? En tout cas, ça devient un sujet, là pour le coup, c'est aussi devenu un sujet politique. Ouais. Roselyne Bachelot a décidé d'essayer d'aller un peu plus vite. Hein.
Oui, absolument. À la rentrée, elle réunit tous les professionnels pour essayer de faire un point sur les festivals, puisqu'ils n'ont pratiquement pas eu lieu, et donc c'est une année blanche. Donc ça va être très, très compliqué. Mais c'est intéressant, l'expérience.
C'est intéressant, parce qu'on essaie toujours d'en savoir un peu plus sur ce virus. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont été publiées encore aujourd'hui sur la longueur de l'immunité par rapport au virus. Cette question qui nous est posée aujourd'hui, asymptomatique un jour au Covid, asymptomatique toujours?
Oh là là là.
On sait pas.
Alors on évite de lire dans le marc de café parce qu'on
évite de dire toujours.
Trompé. Voilà, on s'est quand même beaucoup trompé depuis quelques mois. Moi, je pense en tout état de cause que les asymptomatiques sont vraiment des gens qu'il va falloir analyser de près parce que effectivement, ce qui fait aussi c'est bête à dire, mais la dangerosité de ce virus, c'est le fait qu'on ait quand même des formes excessivement graves. Et à côté, on a quand même une majorité de gens qui développent des formes très légères. Et il faut comprendre chez ces gens-là ce qui se passe ou qu'on regarde dans ce qui est fait aussi hein, dans les formes graves, quels sont les phénomènes génétiques, immunologiques qui sont en action et qui font qu'on a des formes graves. Il y a une solution à trouver et qui aura des implications thérapeutiques. Donc, à surveiller.
À surveiller, selon le New York Times, ce qui publie cet après-midi cette information. À Hong Kong, il y a eu un premier cas avéré de réinfection 4 mois après. Donc, ça concerne un homme de 33 ans. Ça aussi, c'est des informations qu'on a commentées hein, depuis le début de la crise avec vous, Anne-Claude Crémieux, notamment sur combien de temps la durée d'immunité, visiblement, on peut reprendre. Je ne sais pas comment, est-ce être recontaminé par le virus quelques mois après.
Alors, si c'est confirmé, ce sera le premier cas, parce que jusqu'à présent, il n'y avait eu aucun cas de recontamination. Et effectivement, jusqu'à présent, ce qu'on disait, c'est que avec le recul qu'on pouvait avoir, qui était plutôt de 3 à 4 mois, on avait une protection, en tout cas, d'une durée qui était au moins 3 mois. Donc, il faut effectivement regarder ce qui se passe.
Ce qui n'est pas énorme, hein. D'être protégé pendant 4 mois.
Au moins, ouais. Au moins. Alors, au moins parce qu'on ne sait pas. Après, il faut effectivement analyser ce cas. Il ne faut pas trop s'avancer sur un seul cas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas prévoir vraiment la durée de l'immunité en sachant qu'on a des modèles extrêmement différents. On a le SRAS où c'était au moins 2 ans et parmi le personnel soignant, même plusieurs années, qui avait fait le SRAS, on a retrouvé des anticorps neutralisants plusieurs années, et puis le modèle du coronavirus dit saisonnier, où effectivement, on parle de quelques mois. Il y a quand même un élément sur lequel il faut revenir, c'est que ce n'est pas parce que l'immunité naturelle est pas très durable que le vaccin ne sera pas capable d'avoir une immunité prolongée. Donc, on est vraiment dans quelque chose, on va vers l'inconnu.
Vous parlez des vaccins. 6 vaccins sont entrés dans la dernière phase avec des tests sur des dizaines de milliers de personnes. Juste quelques informations. On a parlé tout à l'heure de cette information qui a circulé beaucoup, hein. On a entendu que le virus aurait perdu de sa vigueur. Il aurait muté. Alors,
je pense qu'il y a la convergence de 3 informations qui ont été peut-être mal digérées parce que souvent agglomérées.
Ouais.
Alors les 3 informations, c'est d'abord ce qui se passe dans nos situations. On voit beaucoup de cas détectés, peu de formes cliniques à un instant donné. Bon, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est une première information. 2 autres informations scientifiques qu'on fait parler, c'est une étude qui est sortie dans une revue prestigieuse qu'on appelle Cell, dans laquelle une mutation particulière qui touche la protéine de surface, donc très importante cette protéine, cette mutation qui était peu fréquente au début de l'épidémie, est devenue majoritaire. On la retrouve sur la majorité des souches dans un certain nombre de pays. Ce qui laisse penser que, c'est une hypothèse, que certaines mutations pourraient favoriser la transmission du virus. De fait, un virus, au cours de son histoire naturelle en général, crée des variations. Et ces variations-là, quand elles favorisent sa transmission, ont tendance à être sélectionnées. Ça, c'est une hypothèse. Néanmoins, cette mutation bien particulière, qui a été abondamment décrite, n'est pas corrélée à une augmentation ou à une baisse de la gravité. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment le dire.
D'accord.
Et puis, il y a une 3e étude qui a été réalisée dans un petit groupe de patients à Singapour, dans lequel on a trouvé une délétion très importante d'un gène qu'on connaît très mal. Et là, pour la première fois, on a une corrélation entre cette altération du génome du viral et un amoindrissement de la virulence du virus. C'est sur un petit groupe. Et le fait que ces 3 informations sont arrivées en même temps a permis de faire l'hypothèse que peut-être le virus évolue sous une forme moins virulente, mais ça reste une hypothèse de travail. Et aujourd'hui, en l'état actuel des choses, il n'y a rien qui permet de dire, parce qu'on ne connaît pas le virus qui circule aujourd'hui en détail, que la souche est moins virulente. Je pense qu'il faut être très prudent. On va considérer, parce que c'est une mesure de précaution élémentaire, que le virus, pour l'instant, ne change pas de virulence et qu'on prend les mêmes précautions.
Dernier élément sur lequel je veux avoir votre avis avant de passer aux questions des téléspectateurs. Le président américain a autorisé la transfusion de plasma de personnes guéries du coronavirus aux personnes hospitalisées. On l'avait testé, nous aussi.
Oui, là aussi, c'est un débat qui est intéressant aux États-Unis parce que c'est un peu la politisation de la lutte contre l'épidémie. On a effectivement quelques données qui laissent penser que chez les patients sévères, la transfusion de plasma de convalescent peut être intéressante. Mais les données récentes, il y en a 2. Il y a une étude randomisée contrôlée qui n'a pas montré de bénéfice, mais effectivement, on a dit c'est parce qu'on transfusait trop tard, au 10e jour, chez les patients. D'accord. Et donc que ces patients avaient déjà des anticorps. Et il y a une autre étude, 30 000 patients de la Mayo Clinic, qui laissent penser qu'il peut y avoir un petit bénéfice. Les autorités scientifiques ne voulaient pas qu'il y ait une autorisation de la FDA. Le président a fait pression. Cette autorisation a été donnée. Là encore, une certaine fracture dans la gestion de l'épidémie très politisée.
On l'a connu en France aussi, hein, la politisation du débat sur les traitements. Avec la chloroquine.
On l'a connu, c'est vrai. Oui, vous avez raison, l'a aussi
c'est
connu.
C'est devenu un débat politique.
Là, c'est vraiment un niveau, je dirais, qui dépasse largement ce qu'on a connu en France.
Allez, nous revenons maintenant à vos questions. Comment expliquer la hausse inquiétante des nouveaux cas recensés du Covid-19 ces dernières 24 heures ? Est-ce qu'il y a une explication ?
L'expliquer, on teste plus, donc forcément on en découvre plus, mais c'est aussi, on l'a vu, le confinement a été très bien respecté, mais a été difficile pour beaucoup de gens, et donc il y a eu un peu un relâchement. Peut-être qu'on n'a pas bien communiqué vis-à-vis des jeunes, si Mbappé, Neymar pouvaient nous aider à faire passer les bons messages, parce que les jeunes, finalement, sont impactés, ils peuvent faire des formes de graves, c'est pas fréquent, mais ça peut, ils peuvent contaminer leurs proches, mais surtout, ils seront les premiers impactés par un reconfinement localisé, qu'ils ne vivent mal, et par la crise économique qui suit la crise sociale. Donc, je crois qu'il y a des messages, des formes de communication différentes en fonction des publics que l'on veut toucher.
Le message est passé à Neymar et Mbappé. Hein. Vous leur demandez non pas de gagner, c'est trop tard, mais de faire passer des messages au public. Je voulais dire un mot sur la reprise en 24 heures. Il y a quelque chose d'un peu exponentiel.
Je ne sais pas. Moi, je me méfie toujours des données d'un jour sur l'autre. Je pense qu'il faut attendre de voir comment elles s'inscrivent dans la durée. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'en moyenne, une personne a l'air d'en contaminer plusieurs. Donc plus vous avez de personnes infectées, plus vous avez un phénomène qu'on appelle exponentiel, c'est-à-dire que si ça s'enclenche, on est sur une courbe qui accélère.
Voilà, et qui va très vite.
Ça, c'est aussi une raison, mais encore à vérifier. On est au tout début, je pense qu'il faut être prudent.
Les vacances d'été étaient-elles compatibles avec la situation sanitaire ? N'aurions-nous pas dû rester chez nous ? Éric, dans le Pas-de-Calais. Jeudi, il fallait un moment donné de dire aux Français, reprenez l'activité normale, partez en vacances.
De toute façon, c'est le message quand même qui a été passé pendant le mois de juin, enfin, la période de déconfinement, 11 mai, ce déconfinement en trois phases qui a amené petit à petit à relâcher un peu la pression jusqu'à la fin juin, début juillet. Et puis, on a vu les jauges augmenter jusqu'à 5000 personnes pour les rassemblements. Donc oui.
Elle pourrait redescendre, là, les jauges.
Elle pourrait redescendre, on le voit bien d'ailleurs, il y a des activités, des événements sportifs qui sont annulés. Donc bon, oui, tout est possible. Mais interdire les vacances.
Il fallait vivre quand même. Quel poids psychologique le confinement a fait peser sur la population. Il fallait quand même à un moment donné qu'il y ait une soupape.
L'hypothèse du reconfinement est exclue désormais par le président de la République.
Voilà,
en tout cas, reconfinement général.
Voilà, on ne va pas mettre le pays par terre tout en expliquant qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc on voit bien on voit bien que l'exécutif est entre deux eaux, marche sur des œufs, se dit que on va essayer de faire peut-être des reconfinements. Confinement plus ciblé, c'est ce qui s'est fait en Allemagne. N'oublions pas qu'en Allemagne, quand même, il y a quelque chose qui était assez important. Au début de l'été, ils ont confiné deux cantons, l'équivalent à peu près de 800 000 personnes. Ils n'ont pas hésité à le faire. Nous, on a bien vu sur la situation de la Mayenne, par exemple, où on est resté entre deux. Alors, ça a été plutôt pas mal géré, mais on n'a pas fait un reconfinement sur ce département. Faudra
voir. On ne peut pas mettre le pays à l'arrêt, on voyait à l'instant, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron.
Oui.
Les clients des cafés en terrasse et sans masque ne peuvent-ils pas contaminer les piétons qui passent près d'eux ?
On n'a pas d'expérience de vie en plein air, quand même. Là, a priori, le risque est mineur. On est en extérieur.
Pourtant, on nous demande de porter le masque dans certaines rues commerçantes.
Je pense que c'est une mesure de précaution, mais les études scientifiques qui montrent qu'il y a des contaminations extérieures, j'en connais quasiment pas.
Oui, on sait que le risque de contamination augmente avec la durée du contact. Donc, c'est vrai que dans une situation entre deux personnes se croisent, je pense que là, on peut dire que le risque, franchement, il ne serait même pas considéré, c'est-à-dire ces personnes ne seront même pas considérées comme étant des contacts proches, si jamais la personne qui était assise au bar, était infectée.
Une seconde vague du Covid-19 peut-elle sérieusement être évitée ?
On se prépare au scénario du pire quand même, parce que on espère le scénario du meilleur, mais en tout cas dans les structures hospitalières, on voit pas bien qu'est-ce qui ferait qu'on éviterait une deuxième vague, sauf qu'on envisage plutôt une vague plus aplatie. Plus longue, mais moins forte, parce qu'on a les tests, l'isolement, on a appris beaucoup de choses.
Le professeur Lacombe disait ce matin sur France Inter qu'on était déjà dans une deuxième vague.
Alors, je pense que, vague, pas vague, rebond, de toute façon, je pense là, le débat est un peu surréaliste. Encore une fois, tout dépend de ce qu'on est capable de déployer comme mesure pour freiner cette circulation. On l'a dit, on l'a redit, nous n'avons pas 50 000 armes. On a les mesures barrières, on a le masque, on a isolé. Oui, pour l'instant, on l'a dit, il y a peu de conséquences sanitaires. Notre objectif, c'est évidemment de contenir l'épidémie de façon suffisante pour qu'il y ait des mesures sanitaires qui restent le moins importantes possible.
Alors, les pays qui ont contrôlé sont des pays qui ont confiné.
Donc il n'y a rien d'inévitable, forcément, bien que, évidemment, nous ne connaissions pas vraiment l'avenir, mais en tout cas, de toute façon, nous n'avons pas le choix. Il faut gagner du temps en attendant une arme plus efficace, si elle arrive, mais il y a des chances pour qu'elle arrive, qui est le vaccin.
On rappelle que des pays qui se sont très bien comportés depuis le début, comme la Corée du Sud, étendent actuellement, en ce moment même, on en a souvent parlé, les contrôles, la plus forte hausse quotidienne depuis mars. Et ce sont des pays qui ont beaucoup testé, beaucoup contrôlé.
Oui, mais avec un cluster qu'ils connaissent d'ailleurs, qui, pareil, c'est un rassemblement religieux. Ils ont déjà connu le scénario, ils savent que ça donne des clusters. Et eux, pour l'instant, ils sont dans une situation de cluster et donc presque de cordon sanitaire autour de ces clusters. Donc ils n'ont pas, je dirais, la diffusion communautaire auquel on fait face aujourd'hui.
Mais il faudrait imposer, par exemple, des quarantaines à certains Français qui reviennent de zones considérées comme à risque.
Il faudrait que ça soit plus à risque que nous.
Plus à risque que nous. Et ce qui n'est pas le cas pour le sud de l'Espagne.
Je comprends que l'Allemagne le fait parce que justement, ils ont eu une politique beaucoup plus agressive de contrôle des clusters. Et effectivement, bien, la Corée l'a fait, la Chine l'a fait. C'est-à-dire que les pays qui effectivement ont réussi et avec beaucoup de sacrifices à contenir leurs clusters n'ont pas envie que ça vienne de l'extérieur.
Moi, je peux vous dire que le gouvernement est loin de me rassurer. Au contraire, que va-t-il arriver à mes petits-enfants? C'est Martine en Gironde qui nous dit ça et qui redoute visiblement la rentrée des classes.
Oui, non, mais c'est tout le problème du gouvernement. De toute façon, on voit bien, depuis le début de cette crise, il y a le problème de la confiance, il y a le problème de la parole politique. On l'a bien vu dans les différentes enquêtes. Et en même temps, les Français ont été assez disciplinés. Ils ont plutôt même anticipé le port du masque. Ils l'ont même réclamé. Alors aujourd'hui, on est un peu dans le débat surréaliste où il y a une partie de la population qui dit « Mais moi, j'ai pas envie de porter le masque quand précédemment, c'était pourquoi on ne généralise pas le masque. Donc après, bon voilà, c'est aussi le peuple français qui est parfois pris dans ses propres contradictions.
Je veux me faire tester, mais c'est impossible d'avoir un rendez-vous. On en parlait tout à l'heure.
Ouais. Problème, ouais, alors que nous sommes au mois de septembre. Et encore une fois, l'hiver va aggraver les choses. Enfin, l'automne va aggraver
J'ai pas compris pourquoi ils n'avaient pas généralisé pendant les vacances. Il y a des villes qui l'ont fait sur les parkings, sur les aires de péage. Moi, j'ai pas compris pourquoi ça n'avait pas été...
Réactivité, anticipation. Et là, pour le coup, en plus des masques et des tests, ça manque.
Ça marche très
quel
bien,
est l'intérêt
c'est Barnum.
Quel est l'intérêt de me faire tester si je suis contaminée le lendemain?
Ça, c'est la question.
Bon, allez, peut-être
c'est la
une
question
dernière question.
Quand tester, donc effectivement.
Importante cette dernière question. Par précaution, dois-je me faire vacciner contre la grippe? C'est Jean dans les Bouches-du-Rhône qui nous dit ça.
La vaccination contre la grippe, ça va enlever déjà une cause possible de troubles respiratoires quand on va arriver à la période où le virus va circuler.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que toutes les personnes à risque de grippe doivent se faire vacciner. Ça,
qui peut me dire jusqu'à quand je devrais porter un masque? Personne, on n'en sait rien. En tout cas, il faut le porter, le masque, en cette rentrée. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. On se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous.